Je voudrais ce matin vous raconter l'histoire de l'invisibilité, ou plutôt l'histoire d'une femme, d'une guerrière, et pas n'importe laquelle. La guerrière de Birka, une des plus grandes chefs de guerre vikings du Xe siècle, découverte en 1878 à Birka donc, dans le sud-est de la Suède, enterrée avec toutes les parures traditionnelles d'un guerrier du plus haut rang, au milieu d'armes précieuses et de chevaux sacrifiés. Eh bien cette femme, cette chef de guerre, dont certaines caractéristiques du squelette, au niveau notamment du bassin, était clairement féminine, fut présentée jusqu'en 2017 comme un homme, un chef de guerre, et même l'archétype du guerrier viking, viril, brutal, masculin jusqu'au bout de chacune de ses mèches blondes. Il faut croire que ça ne rentrait pas dans la bonne case, une guerrière viking. Il faut croire que chez les scientifiques aussi, on croit plus qu'on ne sait, que jusqu'au cœur de la science, l'idéologie réussit toujours à faire son nid. En 2017, les analyses ADN ont révélé que cette chef de guerre était bien une femme. L'idéologie, c'est l'enfermement dans la logique d'une idée, disait Hannah Arendt. La science, cette expérience du réel, devrait donc nous en préserver. Pourtant, même après 2017, malgré cette preuve incontestable, il y eut encore des archéologues pour persévérer dans le déni, insister dans la mauvaise foi et continuer à prétendre qu'il s'agissait bien d'un homme. Voilà une autre guerre. Celle que les hommes livrent aux femmes pour les invisibiliser. Mais depuis quand? Et au fond, pourquoi? Est-ce qu'ils ont peur simplement? Est-ce qu'ils ont peur des femmes puissantes? Puissantes comme une Amazone grecque ou une guerrière viking? Est-ce qu'ils ont peur de toutes les femmes parce qu'elles pourraient toutes, sait-on jamais, ces hystériques, devenir un jour une guerrière de Birka? Est-ce qu'ils ont peur ou est-ce qu'ils sont juste ignorants? En plus, ils ne sortent pas du bois clairement. Depuis des siècles, ils s'abritent derrière la science ou l'anthropologie, derrière la nature ou Dieu, derrière la Bible ou Homère, pour justifier l'infériorité des femmes. Mais leurs pseudo-arguments ne sont que des fictions destinées à justifier leurs préjugés. Pour en parler ce matin, de cette invisibilité des femmes et de son histoire, j'ai la joie de recevoir une femme, une chef de guerre à sa manière, mais souriante, qui a fait de la déconstruction des mythes et des préjugés son métier. Marie-Laine Patou-Matisse, donc, préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, auteure notamment chez Alary Édition d'un essai explosif qui a fait beaucoup de bruit, « L'homme préhistorique est aussi une femme ». Marie-Laine Patou-Matisse, donc, qui nous a rejoint ce matin, sous le soleil de Platon, dans la caverne ultra-moderne de France Inter, pour nous aider à répondre à cette complexe question, quand, au juste, commence l'histoire de l'invisibilité des femmes?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Marie-Laine Patou-Matisse, bonjour.
Bonjour.
Vous l'avez pas mal pris, hein, que je vous traite de chef de guerre.
Non, pas du tout.
Parce qu'en fait, ce que vous faites dans votre livre, hein, « L'homme préhistorique est aussi une femme », c'est quand même assez martial. Vous expliquez en gros que quand la préhistoire a été inventée comme science, au 19e siècle, il y a eu directement une vision sexiste, machiste, au fond non scientifique, de l'homme préhistorique, avec une manière d'invisibiliser les femmes. Finalement, comment vous l'interprétez avec le recul? Qu'est-ce qui s'est passé au fond au début de cette science?
C'est-à-dire que je pense qu'il faut se remettre dans le contexte. Hein. Nous sommes au 19e siècle, en Europe occidentale, parce que la préhistoire, donc, c'est une discipline scientifique récente qui a été vraiment reconnue vers 1860, et en Espagne, en France, en Angleterre, et dans une société donc, qui est une société occidentale patriarcale. Ouais. Donc, en fin de compte, si vous voulez, nos prédécesseurs, c'est-à-dire les premiers préhistoriens, ont... Imaginez que dans ces sociétés très anciennes, eh ben, les femmes étaient, comme dans leur société, vouées à des travaux plutôt de l'intérieur, c'est-à-dire plutôt domestiques, liées aussi à des activités liées aux enfants. Et donc, ils ne pouvaient pas du tout envisager qu'elles fassent autre chose que ce type d'activité. Donc, je crois que c'est une pression, si j'ose dire, sociale, parce que tous les chercheurs, de quelles que soient les époques, sont imprégnés de leur société, imprégnés des structures sociales.
Ce qu'on découvre en vous lisant, c'est que les chercheurs, les scientifiques, sont tout autant imprégnés d'idéologie que les non-scientifiques. C'est ça qui est un peu surprenant quand même.
C'est-à-dire que je crois qu'on peut difficilement, ou en tout cas, il faut vraiment faire un effort, s'extraire totalement. C'est-à-dire qu'on essaie, évidemment, beaucoup de scientifiques quand même. Il faut faire attention, surtout maintenant. Essaie justement de se dégager de ces présupposés, préjugés qui entachent toute recherche. Et c'est vrai que là, par exemple, si je vais prendre le contrepoint, c'est-à-dire que là, actuellement, est-ce que, je me pose toujours cette question, est-ce que le fait d'analyser ça de cette façon-là, là aussi, ne résulte pas d'un certain présupposé ou préjugé, en me disant que les femmes, en fin de compte, sont égales de l'homme, c'est un peu quand même ce qu'on essaie de voir et qu'on constate. Donc, je pense que ça, c'est important.
Oui, c'est tout à votre honneur de vous demander si vous n'êtes pas, vous aussi, dans l'idéologie de votre temps. Mais venons-en à votre thèse pour que les auditeurs comprennent bien. Je lis le début de votre livre. Non, les femmes préhistoriques ne passaient pas leur temps à balayer la grotte. Et si elles aussi avaient peint Lascaux, chassé les bisons, taillé des outils et étaient à l'origine d'innovations et d'avancées sociales? Alors, quelles sont les principales découvertes que vous mettez en avant pour casser les clichés et déconstruire les préjugés?
Mais déjà, je pense qu'il faut déconstruire ces a priori, parce que ça ne repose sur rien au niveau scientifique. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends un outil préhistorique, un biphase que tout le monde connaît, qui est magnifique, on peut tout vous raconter. Je peux vous dire quel est le type humain qui l'a fait, quelle période, comment on l'a fabriqué, etc. Mais jamais je pourrais vous dire quelle est la main qui l'a fabriqué. C'est-à-dire que là, on n'a pas de preuves. La même chose pour les peintures. On ne peut pas dire qui a tenu le burin pour faire une gravure sur une paroi.
Donc on ne peut pas non plus dire que ce sont des femmes.
Exactement, mais surtout, jusqu'à il y a peu de temps, on va dire, jusqu'au milieu du 20e siècle, et encore, même plus vers les années 80-90, on nous disait que c'était des hommes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toutes les représentations, tout dans les romans, dans la documentation, dans les films, etc., on avait toujours ces clichés qui revenaient. Ouais. On voyait toujours la femme qui était avec les enfants et allait à la cueillette, l'homme chassait, peignait dans les grottes, taillait des outils. Voilà, c'était vraiment ces archétypes.
Je me souviens quand même, dans mon enfance, avoir vu un film avec une femme préhistorique hyper sexy, blonde, c'est qui déjà?
Raquel Welch.
Oui, voilà, c'est ça, ça existait quand même.
Voilà, ça existait, mais c'est assez rare, et là, ça prenait le contrepoint, c'est-à-dire qu'on tombe quand même dans les clichés féminins.
Alors, je vois la réalisatrice derrière la vitre qui dit, oh, c'est pas possible. Mais alors, revenons quand même à des découvertes concrètes. Par exemple, les femmes chassées, ça c'est sûr.
C'est-à-dire que là, on a des témoignages qui montrent que dans certaines sociétés, parce qu'il faut, là je voudrais tout de suite dire aux auditeurs, il faut faire attention, on ne peut pas essentialiser, ne pas généraliser. C'est-à-dire qu'on a tendance, la préhistoire, ça n'existe pas. Ce sont des sociétés préhistoriques, ce sont des milliers
d'années. D'ailleurs, petit rappel, la préhistoire, c'est le camp.
Voilà, alors donc, ce qu'on considère comme la préhistoire, c'est deux grandes parties, c'est le paléolithique et énorme partie, c'est-à-dire que là, nous sommes des chasseurs-cueilleurs nomades, hein, et à partir...
Ça commence à moins 700 000 à peu près
C'est-à-dire que si on prend l'Europe, mais ça, comment on peut faire commencer plutôt en Afrique. Ouais. Et puis, vers à peu près il y a 12 000 ans, on a l'arrivée du néolithique, une transformation de l'économie, une transformation de la société très très forte, par l'arrivée des agriculteurs et des éleveurs. Et ça, c'est le néolithique. Donc, c'est deux systèmes complètement différents au niveau économique, au niveau structure
sociale. Vous êtes spécialiste plutôt du néolithique.
Non, plutôt du paléolithique.
D'accord. Voilà. Mais moi, pourtant, de Néandertal. Vous avez cassé le mythe de Néandertal.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que là aussi, il y avait une espèce de présupposé comme quoi les Néandertaliens étaient inférieurs aux sapiens, ce qui n'a pas de sens.
Alors, Néandertal, c'est quelle période et sapiens, c'est quelle
période? Alors, les Néandertaliens, si vous voulez, sont des Européens. Il y en a quelques-uns qui vont passer au Proche-Orient, mais ils sont surtout ils sont apparus, évolués d'une souche africaine, mais en Europe, on va dire de 400 000 ans jusqu'à à peu près 35 000 ans. Donc là, c'est eux. Et les sapiens, maintenant on sait qu'ils sont plus anciens qu'on le pensait, c'est 300 000 ans. On les a découverts notamment un crâne au Maroc. Et bien sûr, ils sont encore là.
C'est nous.
C'est nous. Ouais. Et ils vont arriver en Europe vers à peu près 43 000, 45 000 ans. Et là, ils vont être sur les mêmes territoires que les Néandertaliens.
Je comprends. Et en fait, vous, ce qui est intéressant dans votre démarche, d'abord, votre livre est génial, je vais en parler après de ça. Structure, mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes vraiment une machine de guerre pour casser des mythes. Par exemple, vous êtes illustrée en tant que préhistorienne dans le fait d'avoir montré que Néandertal n'était pas une sorte de crétin tel qu'on le montrait, et là vous faites pareil avec ce rôle des femmes dans la préhistoire. Et je voudrais qu'on revienne à des découvertes plus précises, par exemple, sur toutes les Vénus, les œuvres d'art, ces chefs-d'œuvre de l'art, eh bien, on s'aperçoit que peut-être ce sont des femmes qui les ont faites, parce que notamment, c'était beaucoup des chamanes qui faisaient les Vénus. Vénus, et que, en fait, on a découvert que c'était des femmes qui étaient chamanes, par exemple. Donc il y a quand même des indices assez forts pour changer de vision sur l'art, notamment.
Mais oui, là aussi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas pendant très longtemps, le regard sur ces Vénus était un regard masculin, parce qu'il faut vous dire que quand même, les premières femmes préhistoriennes, c'est seulement vers les années 1950, hein, pour les périodes très anciennes de la préhistoire. Donc, il y avait toujours eu, pendant très longtemps, un regard masculin sur ces Vénus, et c'est vrai, que, d'ailleurs, rien que le nom, on les appelait les Vénus, oui. Vous voyez, bon. Et donc, il y avait ce regard qui était toujours dans la pensée que la sculpture avait été réalisée par des hommes. Et alors, sur ces Vénus, c'est très, très intéressant, parce que tout pour les auditeurs, l'art, si vous voulez, pariétal, l'art paléolithique, aussi bien donc ces sculptures que les peintures et les gravures sur les parois, c'est donc pour l'instant c'est essentiellement Homo sapiens, et c'est là aussi sur 25 000 ans, donc c'est aussi très très large. Et on a peu de représentations humaines par rapport aux représentations animales. Et les représentations humaines, c'est 80 à 90%, ce sont des représentations féminines.
Bah oui.
C'est-à-dire que le féminin est très présent. Vous
donc,
avez
je veux dire,
les sculptures,
si on,
les
si on a un peu de bon sens, mais c'est juste du bon sens, moi je suis pas savant, on pourrait se dire que statistiquement, il y a plus de chances que ça a été fait par des femmes que par des hommes. Bien. Sauf à penser que les hommes sont complètement obsédés par les femmes et que dans ce cas, il y a vraiment du masculin et du féminin par ailleurs.
Oui, c'est-à-dire que ça, ça a été envisagé. D'ailleurs, ouais. On a dit c'était les premières représentations érotiques, c'était certaines de ces Vénus. Mais dans les Vénus, on a de tout. Et on a peut-être aussi des amulettes qui peuvent être, correspondre à des espèces de gris-gris qui pouvaient être présents lors d'accouchements et tout, faites par des femmes, pour des femmes. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment sortir de cette vision, toujours de penser que la fabrication et l'initiative de toutes ces inventions vient des hommes.
Et c'est fascinant, tout ce que vous dites sur moi, ça me fascine, sur l'œuvre d'art des Vénus, parce que vous montrez que peut-être, en fait, on projette une différence des sexes très dualiste, et qu'en fait, c'est beaucoup plus ambigu que ça. Notamment, vous expliquez que la Vénus de Lespugue exprimerait peut-être la conjonction de deux images féminines, parce que lorsqu'on renverse la tête en bas, apparaît une seconde femme, et peut-être même une forme phallique lorsqu'on l'observe de profil. Donc en fait, peut-être que c'est nous qui n'arrivons pas à accéder à la puissance ambiguë et presque polysémique de Vénus, en fait.
Exactement. Et ce que je crois qu'il faut vraiment là aussi avoir en conscience, c'est que en fin de compte, on a beaucoup de mal à justement ne pas vouloir calquer notre façon de concevoir le monde, de concevoir les sociétés. Il faut vraiment s'en extraire, parce que là aussi, cette dichotomie qu'on a mis entre les hommes et les femmes. Mais est-ce que c'est pas nous ? Est-ce que c'est pas au cours de l'histoire que ceci s'est mis en place, qu'on a vraiment accentué ça? Peut-être qu'à l'époque, faut se replacer à l'époque. À l'époque, c'est quoi? Ce sont des petits groupes. Ouais. C'est ça qui est important. Il n'y a pas d'État,
oui, on n'est pas des familles,
sociétés,
il n'y a pas le papa, la maman,
voilà,
l'enfant.
Ce sont des petits groupes, on dit de 30 à 50, là je parle pour le paléolithique, ouais. Hein, pour les chasseurs-cueilleurs. Et donc ce sont des petits groupes, et à l'intérieur, évidemment, c'est une société qui diffèrent au niveau structure sociale des nôtres, qui sont complètement étatisés, hiérarchisés. Là, on a beaucoup de témoins archéologiques qui mettent en évidence plutôt quelque chose assez équilibré entre les individus. Il n'y a rien, si vous voulez, qui met en évidence qu'il y aurait cette
structure
scientifiquement. Mmh. Donc, pourquoi vouloir absolument que ça soit comme la nôtre? Et en plus, la nôtre occidentale. Et en plus, la grande diversité de ces sociétés. On ne peut pas appliquer pour toutes ces sociétés qui traverse tout le monde entier, les mêmes structures sociales.
D'ailleurs, vous décrivez quelque chose d'assez génial, c'est que ces premiers humains, ceux dont vous parlez maintenant, en raison des 9 mois qui séparent l'acte sexuel de la naissance d'un enfant, n'avaient probablement pas conscience du rôle des deux sexes dans la procréation. Probablement, imaginait-il, la maternité comme une sorte de reproduction monoparentale, relevant un peu du surnaturel.
Oui, c'est un vrai débat. En ce moment, on travaille justement sur ce sujet, on réfléchit beaucoup, parce qu'à partir de quand l'homme a pris conscience qu'il participait à cette fécondation. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que les humains préhistoriques, si vous voulez, à l'époque, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que le bébé sort du ventre de la mère.
Oui. Ils le voient.
Et dans ce groupe, on sait que on a par exemple de la consanguinité. Donc, si vous voulez, on voit bien que s'il y a pas papa, maman, il y a sûrement ces multipartenaires. Donc, c'est compliqué de même cette notion de père de la mettre en évidence.
Mais alors, quand même, si on essaye de comprendre pourquoi il y a ce processus historique, multiséculaire, voire multimillénaire d'invisibilisation des femmes, il y a une thèse que j'entends souvent, comme ça, une thèse presque de bon sens, qui est que les hommes auraient été jaloux devant cette puissance du féminin, puissance d'enfantement, qu'ils ne comprenaient pas et d'autant plus qu'ils ne voyaient pas le rapport avec leur sexualité à eux. Qu'est-ce que vous en pensez de cette interprétation?
Oui, je pense que ça fait partie des hypothèses qu'il faut retenir, parce que là aussi, pour nous, nous n'avons pas de preuves archéologiques qui permettent de dire à quel moment et quand se passe l'arrivée de cette conscience chez les hommes. Mais on peut envisager autre chose aussi. On peut envisager qu'il y a une nécessité de domination à un moment donné sur la femme, parce que de prise sur son corps, notamment, parce qu'il y a l'apparition des biens, par exemple au cours du néolithique, et qui va faire que ces hommes ne veulent transmettre leurs biens à leur descendance, être sûr de leur descendance. Ah oui. On est toujours sûr pour la femme, mais pour l'homme, on n'est jamais sûr. Donc là, on peut aussi envisager cette hypothèse-là, c'est-à-dire que pour maintenir une certaine sécurité dans la filiation, si j'ose dire, du côté masculin...
Une transmission
des biens, et donc on va là prendre possession, si j'ose dire, en l'enfermant plus ou moins du corps de la femme, qu'elle reste à la maison et qu'elle sorte pas.
Mais dans ce cas, si je vous suis, ça veut dire qu'on est bien uniquement à partir du néolithique, c'est-à-dire à partir du moment où l'homme comprend le rapport entre sa sexualité et les enfants.
Ben ça, c'est sûr que ça met en évidence qu'il y a cette apparition. Mais pour nous, c'est un vrai challenge d'essayer de montrer à partir de quand vraiment il y a cette conscience. Certains disent que c'est naturel. Certains disent que, vous savez, beaucoup de personnes pensent que c'est naturel. Bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais donc ce serait comme ça que
d'instinct. Vous n'y croyez pas.
Bah, c'est-à-dire que je pense que l'homme, les humains, il y a beaucoup de culture quand même, et que la culture a fait beaucoup de progrès ou de non-progrès, et qu'a construit des modèles. Et je pense que c'est là qu'il faut réfléchir sur. C'est peut-être plutôt une construction culturelle, le fait qu'on soit des papas, des mamans, des familles.
Voilà. Et en tout cas, il y a ce qu'on ne sait pas, et vous reconnaissez la limite de votre savoir, et il y a ce qu'on sait, et ce qu'on sait, on va en parler après ce très beau morceau de musique, c'est ce que vous démontrez, c'est qu'en tout cas, le patriarcat n'a aucune assise anthropologique. C'était Leslie Gore, sublime chanson You Don't Own Me.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Marilène Patoumatis. Nous parlons de son dernier livre, L'homme préhistorique est aussi une femme, une histoire de l'invisibilité des femmes, sorti chez Alary Édition. Un livre explosif, traduit dans 8 pays. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure de la traduction de ce livre en Italie, en Espagne, dans des cultures très macho. Mais je voudrais revenir à votre thèse principale. Quand j'ai distingué tout à l'heure ce que vous reconnaissez ne pas savoir et ce que vous pouvez quand même savoir, et ce que vous savez, c'est que le patriarcat n'est pas fondé en nature. La science nous montre qu'il n'y a pas d'assises anthropologiques. Or, en fait, ce qui s'est passé au XIXe siècle, c'est que les hommes occidentaux qui ont fondé la science de la préhistoire, en fait, avaient des clichés sexistes dans la tête, et ils ont voulu justifier l'organisation patriarcale de leur société présente, donc le XIXe siècle, par une référence prétendument scientifique au premier temps à la nature. Ce que vous montrez, c'est que ça n'est pas scientifique.
Non, là aussi, ça repose sur des présupposés. Par exemple, pourquoi voulez-vous qu'il n'y ait pas eu un autre système dans certaines de ces sociétés? Je suis toujours aussi très prudente, il y a plein de sociétés, qui étaient un système matrilinéaire. Pourquoi pas?
Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Alors, c'est pas exactement matriarcal.
Voilà. Non, je préfère le thème de matrilinéaire parce que, si vous voulez, il a moins cette connotation rattachée au versus quoi, du oui. patriarcat. Patriarcat, oui, il est montré dans les lois. Hein, je veux dire, quand on lit le code romain et le code Napoléon, on voit très bien que nous sommes dans une structure patriarcale, hein, puisque la femme est sous la domination donc de son père et après de son mari. Mais alors que, pour moi, les sociétés matrilinéaires, si vous voulez, c'est une société où les savoirs, le nom, les biens sont transmis par les femmes, mais qu'il n'y a pas de domination, c'est-à-dire des hommes. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau des activités, il n'y a pas les femmes qui gouvernent, qui prennent le pouvoir, et les hommes qui suivent, bon, comme c'est le cas dans les sociétés patriarcales pour les femmes. Donc c'est très différent. Et quand on voit justement, on parlait tout à l'heure des naissances, quand on voit le système de ces groupes, qui sont quand même des groupes, c'est claniques comme système, et que la femme, on le voit dans l'art paléolithique, est omniprésente, justement aussi à travers les enfants. Et ben pourquoi ne pas du tout, pourquoi rejeter cette hypothèse que ce soit des sociétés à la base plutôt matrilinéaires dans leur grande majorité que patriarcales? On voit pas pourquoi, sur quoi ça s'appuie.
Bien
sauf
sûr.
Sur le fait qu'on pense que c'est comme ça parce que c'est comme ça depuis des siècles. Ben oui, mais avant ces siècles historiques.
Et bien à ce sujet, au sujet donc du matriarcat rebaptisé par vous système matrilinéaire, je vous propose d'écouter la voix de Claude Lévi-Strauss.
Généralement, on a décrit sous le nom de matriarcat un état social très largement hypothétique où les femmes auraient exercé la totalité des pouvoirs qui sont aujourd'hui masculins. Un tel régime n'a jamais été observé. Nous pouvons faire certaines observations sur les grands singes anthropoïdes et nous dire que nos très lointains ancêtres ont dû avoir une organisation qui ressemblait plus ou moins à cela. Encore était-ce probablement des centaines de milliers d'années avant d'accéder à la condition proprement humaine. Et même quand nous regardons les grands singes anthropoïdes, nous sommes fort embarrassés parce que, selon les espèces, nous trouvons des régimes tout à fait différents. Et je crois qu'il est très important de souligner qu'en ce qui concerne la société contemporaine prise dans sa dimension historique, bien, il est frappant que chez nous, comme partout ailleurs dans le monde, la notion de couple ne se dégage qu'à une période très récente, parce que le mariage a été pendant des siècles ou des millénaires conçu par l'humanité comme étant l'alliance de deux groupes, beaucoup plus tôt que l'alliance de deux individus.
Oui.
Mais alors, du coup, oui. On ne peut pas non plus prouver que ça a existé, ce matériel.
C'est-à-dire que si on a quand même dans l'histoire des sociétés en Asie ou en Afrique étaient matrilinéaires. C'est-à-dire que là, le matriarcat, je suis d'accord, on n'a rien. C'est très rare. Bon, peut-être une certaine tribu en Chine, mais c'est vraiment... Mais par contre, matrilinéaire, si, au niveau historique. Mais là, ce qui est intéressant, ce que dit aussi Lévi-Strauss, c'est que justement, dans ce système de fonctionnement des sociétés, de structures sociales, c'est très difficile de dégager cette notion, justement, de couple. Et donc, si on enlève cette notion de couple et de famille, au sens où nous, on longtemps, ça tombe un peu, parce que là, on voit qu'en fin de compte, ça peut être tout à fait des structures différentes, et la notion de genre ne pas exister comme nous on l'a mis. Actuellement, c'est vraiment nous qui avons décidé qu'il y avait un genre, c'est-à-dire qu'il y avait des activités féminines et masculines. Peut-être c'était beaucoup plus basé sur des compétences. Donc, je crois que là, c'est intéressant. Et ce que je voudrais quand même, si vous le permettez, je voudrais dire qu'il y a quelque chose qui me choque un petit peu dans nos recherches en préhistoire et en archéologie, d'ailleurs, c'est ce comparatisme avec les derniers peuples chasseurs-cueilleurs.
Oui.
J'ai même fait un papier, là, récemment, une carte blanche sur ça. Parce que je pense que là, il faut être extrêmement prudent. Ces peuples chasseurs-cueilleurs qui vivent actuellement, ou qui vivaient il y a encore quelques années, je suis désolée, ils ont toute une histoire aussi. Ils ne sont pas des reliques des humains préhistoriques. Donc de calquer, parce que actuellement ils ont tel type de société, c'est-à-dire par exemple une division sexuée du travail, que c'était comme ça avant. Ce sont pas des
oui, il y a une histoire aussi pour ces peuples-là.
Bien sûr, ils ont 10 000 ans d'histoire. Et ça, c'est important.
Il faut que
de
je précise
ça.
Pour nos auditeurs que dans votre parcours de savante, avant d'être directrice de recherche au CNRS, vous avez vécu plusieurs mois parmi un de ces peuples, les Bushmen, je crois, du Botswana, qui sont justement des chasseurs-cueilleurs. Donc en fait, vous avez connu leur mode de vie. Et est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous avez vu de vos yeux pendant ces mois-là?
Ben, c'est-à-dire que, voilà, déjà, j'ai justement fait ce constat. Fait ce constat que ces peuples, même s'ils gardaient... Parce que j'avais essayé de trouver un des derniers peuples, c'était en 1986, juste avant après ma thèse, de trouver justement un peuple qui était chasseur-cueilleur au niveau de l'économie. Et je me suis aperçue qu'en fin de compte, si vous voulez, ils avaient eu toute une histoire, que en fin de compte, leur structure sociale et leur cosmogonie avaient évolué. Parce que qu'est-ce qu'ils ont ? Ils occupaient toute l'Afrique australe et qu'est-ce qu'ils ont vu arriver au fil du temps ? Ben, les Bantous avec leurs animaux, ils ont vu arriver les Blancs, etc. Donc ils se sont modifiés. Ils faisaient des peintures extraordinaires, ils n'en faisaient plus, etc. Donc, tout ça a modifié. Et ça m'a beaucoup marqué pour dire que maintenant, je suis extrêmement prudente. Et en plus, au niveau éthique, ça me gêne beaucoup quand même qu'on considère que ces populations, parce qu'elles ont une économie encore basée sur quelque chose qui peut paraître archaïque, soient infériorisées en disant bah, c'est des humains préhistoriques, ils n'ont pas évolué. Non, ils ont une histoire et ce qui s'est modifié.
Mais qu'est-ce que vous avez vu concernant la répartition des rôles entre hommes et femmes chez ces Bushmen du Botswana? Oui.
Mais moi, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment intéressée. Je l'ai écrit, mais c'est un livre qui est épuisé sur une mort annoncée. Ouais. C'était un peu triste comme titre, mais c'était...
Surtout qu'ils sont maintenant tous morts.
Ils sont morts. Et donc, si vous voulez, c'était de voir que les activités, en fin de compte, étaient plus basées sur les compétences. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y avait pas vraiment un chef, que le chef, ça dépendait de la situation. Par exemple, pour la chasse, on prenait le plus grand des chasseurs, et là, si c'est un homme, c'est un chasseur, pour une question plus de réconcilier de clans et tout, c'était une autre personne qui pouvait être une femme. Les habitats, il y avait des femmes qui les construisaient, hein, les huttes, d'autres c'était... Voilà. Enfin, donc c'était plus basé sur quand même plus de compétences. Donc ça, je pense que c'était intéressant. Et surtout, ça m'a beaucoup imprégné sur le fait qu'ils ont des savoirs et des affaires formidables. Et qui sont utiles dans leur type de société, donc ce ne sont pas des peuples inférieurs. Ce n'est pas qu'ils ont cette économie qu'ils sont des peuples inférieurs.
Il faut bien qu'on comprenne ce que vous êtes en train de dire. En fait, la science, et vous êtes une scientifique, catégorise. Mais comment on peut catégoriser sans hiérarchiser? C'est une vraie question. Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que cette science, elle s'est habituée à catégoriser, du coup, elle a infériorisé des peuples par rapport aux autres. D'ailleurs, ça s'est d'abord fait au sein des hommes, et puis... Le dernier maillon de la chaîne, c'est que par rapport au plus inférieur de tous les hommes, il y a encore plus inférieur, c'est la femme de cet homme.
Voilà.
Mais maintenant, comment on fait pour catégoriser sans hiérarchiser ?
Et moi, je pense qu'il faut, là aussi, nettoyer son esprit de cette volonté-là qui est quand même aussi typiquement occidentale. On veut absolument, on a déjà commencé par classer les animaux, des inférieurs aux supérieurs.
Déjà Aristote, c'est ça.
Voilà. Ouais. Aristote, oui. Bon, je vais pas parler d'Aristote, ça m'énerve un petit peu,
j'ai
désolée.
L'impression qu'il n'y a pas que lui qui vous énerve.
Non, mais lui,
il y a aussi Rousseau, il y a aussi Kant, il y a aussi la Bible, il y a aussi Homère,
oui,
on va en parler.
Plein, voilà, ouais. Il y a eu des phrases terribles, c'est pour ça, sur les femmes. Mais ce qui est important, c'est que je crois qu'il faut essayer de voir la différence sans la hiérarchie. Je prends l'exemple que vous avez cité, j'ai travaillé énormément sur les Néandertaliens depuis toujours, parce que ma thèse était déjà déjà sur eux, sur leur comportement.
Ah oui. Et en fin et aussi compte, sur le délit de sale gueule. Parce
voilà, délit de sale gueule. Et là aussi, on peut, il faut marquer les différences. Ils sont différents, il faut qu'on apprenne à mettre un point. Et pas, ça veut dire différent, mais pas ni supérieur, parce que maintenant, tout le monde veut être non-dirtal, plus personne veut être sapien, c'est aussi ridicule. Mais et aussi, ne pas dire inférieur, évidemment. Donc je crois que c'est ça, c'est avoir un regard distancié, essayer de prendre plus de recul et de se dire, bah, attention, est-ce que c'est pas parce que je suis en ce moment, là, au 21e siècle, en France, que je vais penser comme ça? Non, il faut se dégager.
On a compris. Merci pour cette belle invitation à prendre de la distance. On va essayer de le faire. Et de regarder toute cette histoire, parce qu'au fond, votre livre, hein, L'homme préhistorique est aussi une femme, est sous-titré Une histoire de l'invisibilité des femmes chez Alary Édition. Et je précise que vous remontez très loin. Finalement, personne n'était remonté aussi loin que vous. Vous rendez hommage à l'historienne Claudine Cohen, à qui d'ailleurs vous empruntez en partie le titre, en le reconnaissant. Hein. Simone de Beauvoir, dans le deuxième siècle, a aussi beaucoup parlé des premiers temps. Mais vous, vous remontez très loin. Et c'est vrai que si on prend de la distance, cette dévalorisation du féminin, elle est présente depuis toujours. Dans la mythologie grecque, on a Pandora qui est la cause de tous les maux. Dans la Bible, on a Ève qui est née de la côte d'Adam et qui est la cause du péché originel. Saint Thomas d'Aquin présente la femme comme un homme raté. Et puis, Aristote a eu des propos désobligeants sur les femmes. Rousseau, n'en parlons pas. Kant a réservé le sublime aux hommes et les femmes ne pouvaient avoir que le petit beau, qui est beaucoup moins bien que le sublime. Et donc, quand même, Aristote est un génie, Kant est un génie, Rousseau est un génie, et on a l'impression pourtant que c'est un gigantesque male gaze. Hein, le male gaze, c'est quand il y a un film qui est vu comme ça, à travers uniquement un regard d'homme. Si on est honnête, et qu'on a un peu de tendresse par rapport à ces génies qui ont dit n'importe quoi sur les femmes, comment on peut le comprendre, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avoue que je ne le comprends pas, au fond. Au fond, je suis surpris.
Ah oui. C'est-à-dire que moi, pas tellement, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que ce sont des humains, des hommes.
Pris dans leur temps.
Pris dans leur temps, et aussi dans leur propre histoire. Dans leur propre confrontation, voilà. Je pense que Rousseau, par exemple, il a eu une grande désillusion, etc. Il a eu. Je pense qu'on peut, on n'est pas, voilà, quand on a une grande souffrance, par exemple, ou une grande déception.
Oui, Kant, c'est vrai qu'il n'a pas connu une seule femme de sa vie, probablement.
Voilà. Donc, je pense qu'il faut.
Vous êtes gentil avec eux.
C'est humain, vous... comme disait Nietzsche, c'est humain trop humain. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis gentil. Je ne sais pas si je suis gentil, mais je veux dire.
Parce qu'au lieu de dire que c'est systémique. Et que c'est le monde environnant qui les traverse, vous essayez de les excuser, entre guillemets, avec de la biographie. En disant Rousseau a souffert, Kant a été puceau toute sa vie, par exemple. Mais c'est un peu, c'est un peu facile, parce que c'est tellement récurrent, au fond.
Oui, est-ce qu'on ne garde pas en mémoire plutôt toujours ceux qui ont été dans les extrêmes? Est-ce qu'en fin de compte, là aussi, je pense à quelque chose d'important que vous voyez en ce moment? Je crois que c'est le 19e siècle, par exemple, au niveau de l'histoire, qui a gommé beaucoup de femmes qui, de leur temps, avaient leur place. Oui. C'est ça qu'on oublie. On a l'impression que ça a toujours été une oppression de toutes les femmes.
D'ailleurs, vous avez un beau chapitre là-dessus, parce que les éternelles rebelles.
Les éternelles rebelles, il y en a toujours eu. C'est pas du tout, les femmes ne sont pas des victimes. Et surtout, elles ont été reconnues. Bien sûr, pas toutes les femmes, etc. Mais il y avait une position de certaines femmes dans la société qui et dans les foyers aussi d'ailleurs qui étaient reconnues. Et je crois qu'il y a eu des pressions. Il y a eu par des groupes comme la dépression.
Il y a eu de la réécriture a posteriori.
Il y a eu réécriture. Il y a des pressions.
De la rétroprojection.
C'est la rétroprojection. Et je pense que c'est ça qui a fait. Mais en réalité, je suis pas sûre que maintenant on est en train de faire on va dire un inventaire entre guillemets. De toutes ces femmes qui sont un peu partout. Et on constate que, de leur vivant, il y en a eu beaucoup qui ont été reconnues. Et que pour les femmes des sciences, c'est plus dur. Pourquoi? Parce que la plupart, c'est au 19e siècle. Et là, c'est un siècle terrible. Je pense que le 19e siècle est un siècle terrible pour les femmes, où cette structure, avec le code Napoléon notamment et tout ça, va prendre de l'ampleur. Donc là, beaucoup de femmes, c'est l'effet Matilda, etc.
C'est vrai que ça dépend quel regard on porte sur le temps long. Il y a quand même des exceptions. Les Amazones, par exemple, dans la mythologie grecque, c'est des femmes puissantes qui utilisent les hommes comme objets sexuels, etc.
C'est peut-être... Voilà, ça, je suis sûre que c'est peut-être une légende. Mais par contre, là, si vous me permettez, il y a eu quand même beaucoup de travaux. Moi, j'ai travaillé très longtemps en Crimée et avec mes collègues ukrainiens auxquels je pense actuellement et ça me fait beaucoup, beaucoup de peine. Moi, j'ai travaillé 15 ans en Crimée et en Ukraine et où on a trouvé beaucoup de collègues ont travaillé sur les périodes plus récentes. Notamment, ils ont mis en évidence que chez les sites, Donc, vous voyez, c'est le 8e siècle avant notre ère. Chez les Scythes, en fin de compte, beaucoup de tombes, de sépultures qui sont découvertes montrent que les Scythes, une partie, étaient guerrières. Donc, ça rejoint, ça rejoint les Amazones, parce que c'était dans ces régions-là, les Amazones. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. L'archéologie vient un petit peu montrer que certains textes n'étaient pas vraiment faux, quoi.
Et ça rejoint aussi cette figure de la guerrière de Birka. C'était Angèle, libre.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec la préhistorienne, chercheuse au CNRS, chercheuse, devrais-je dire, Marilène Patoumatis, chef de guerre, on a dit, mais très souriante. Alors votre livre, L'homme préhistorique est aussi une femme, s'ouvre sur une citation de Romain Gary, dans un entretien avec Jacques Chancel. Romain Gary qui dit « Je ne critique pas les hommes, je critique 2000 ans de civilisation qui font peser sur l'homme une hypothèque de fausse virilité et de fanfaronnade de coq. »
Ouais. Je trouve ça... Pour moi, il résume tout dans cette phrase. Parce que je crois que là aussi, cette volonté de certains au cours des siècles de vouloir imposer ce système patriarcal, cette domination masculine qui repose quand même en grande partie sur une espèce de virilité soi-disant là aussi naturelle de l'homme. Ouais. Je crois qu'elle a pesé aussi, bien sûr, énormément sur les femmes. Il y a une grande souffrance, notamment à travers toute la violence qui est faite aux femmes, mais aussi sur les hommes. Et là, ce qui est important de montrer, c'est que peut-être ça, justement, ce rapport-là n'a pas toujours existé, qu'il est essentiellement culturel. Et quand c'est culturel, on peut l'enlever, on peut le changer, on peut le modifier. C'est pas inscrit dans le marbre, ouais. C'est pas génétique.
Et donc, ça ne justifie rien.
Exactement. Et je crois que, bien sûr, il y en aura toujours des violents, etc. Mais que la société doit aussi justement apporter ces changements et un vrai travail sur cette notion de virilité, de montrer qu'en fin de compte, on est un homme, seulement si on est viril, si on est dominant. Et ce qui n'est pas vraiment le cas, je crois, dans la plupart des, des sociétés. On peut très bien construire autre chose. Et la domination, pourquoi la domination? Pourquoi alors, pas un équilibre?
Dans tout votre travail, il y a une approche évidemment scientifique, c'est-à-dire de déconstruction des mythes, donc des préjugés, des fictions par lesquelles on voit le réel et par lesquelles, au fond, on voit le réel comme on voudrait qu'il soit. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que vous déconstruisez aussi l'idée d'une évolution qui serait linéaire, parce que vous dites qu'à partir du moment où on voit l'évolution comme linéaire, on va plus facilement hiérarchiser et dire, voilà, ça c'est mieux que ça, parce que c'est venu après. Et vous parlez de quelque chose de buissonnier. Je trouve ça très joli et poétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, buissonnant. Oui, buissonnant et où on mosaïque. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu et tous mes collègues qui travaillent en paléanthropologie ont bien montré qu'il y a différentes espèces humaines. À plusieurs périodes, il y en a plusieurs. C'est seulement maintenant qu'il y a une seule espèce humaine. Donc déjà, on est tout à fait dans un buissonnement de différentes espèces en même temps. Et puis, au niveau des cultures, c'est pareil. Une espèce de mosaïque. C'est-à-dire qu'en même temps, vous aviez des chasseurs-cueilleurs, vous avez déjà des néolithiques, après vous allez avoir les périodes industrielles. Donc tout ça, on est en mosaïque, et très tôt déjà, c'est des mosaïques. Avec des inventions, des allers-retours, des inventions qui apparaissent, qui vont disparaître, et qui réapparaissent dans d'autres endroits. Donc on est quelque chose de beaucoup plus... flou, au sens sans frontières, sans limites, sans cette vision qui était vraiment omniprésente de cette évolution unilinéaire. Voilà, on va en fin de compte de l'alpha à l'oméga.
Donc, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, très probablement, il y a un rapport entre la vision linéaire et le préjugé sexiste ou machiste. Parce qu'en fait, d'ailleurs, tout ça est probablement dans la Bible. Hein. La Bible a créé une conception linéaire du temps, avec cette idée qu'il y a un péché originel, et puis après un rachat, un salut, ça crée une linéarité du temps. Ce temps qui, par exemple, chez les Grecs, était davantage cyclique. Et c'est aussi dans la Bible qu'il y a cette infériorisation de la femme qui est née de la côte d'Adam. Et donc, est-ce que vous croyez que c'est pas extrêmement dur pour nous de changer ce logiciel mental de la linéarité qui va impliquer un différentialisme, en fait, inégalitaire?
Oui, bien sûr. Et surtout, c'est très grave, parce que si on a cette notion que ce qui était avant, c'était moins bien que ce qui est maintenant, ouais, on a l'impression que maintenant, c'est génial. Et là, à ce moment-là, dès que vous pensez que vous êtes super, là, on n'avance plus, quoi. C'est-à-dire qu'on va stagner, on va reproduire des erreurs, parce qu'on pense qu'on a raison. Et je pense que cette vision-là, elle est vraiment pas bonne. Je pense qu'il faut revoir autre chose et se dire qu'à chaque période, en fin de compte, à chaque moment, les sociétés ont répondu aux problèmes de leur époque. Ouais. Et donc, il n'y a pas à savoir... et eux, il fallait, à un moment donné, il a fallu faire des outils. Ben, on a fait des outils. Les premiers outils, c'est... capital. Les domestications du feu, c'est capital. Ça change complètement tout. Donc, ces inventions...
Vous pouvez nous rappeler les dates, un peu?
Ben alors, là, par exemple, pour les outils, maintenant, on est à 2,3 millions. On est vraiment... c'est très, très vieux. C'est en Afrique, 2,3 millions. Donc, on ne sait même pas si c'est du genre homo qui l'aurait taillé. Ouais. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et puis, par exemple, le feu, c'est vers 500 000, on va dire. Et après, on le retrouve un peu partout, là aussi. C'est pas... ils n'ont pas transporté le feu. C'est qu'à un moment donné... Voilà. Et on a ces inventions qui font qu'elles ont été fondamentales à l'époque et qu'elles ne sont pas inférieures au fait d'envoyer des satellites aujourd'hui. Il faut repenser ça en disant, à chaque époque, on répond à des... Et les humains, c'est pour ça qu'on parle de résilience, hein, parce que nous sommes en fin de compte des résistants de ce que vont traverser. Hein, nous sommes et donc il y a eu toujours ces réponses à ces changements extérieurs d'environnement et après de société. Et ça me paraît important de voir que non, chaque époque a ses inventions majeures et que les nôtres sont pas plus majeures. Donc ça me paraît vraiment important. Et Einstein disait sans la pomme de Newton, j'aurais pas trouvé la relativité.
Mais du coup, est-ce que vous diriez que vous êtes relativiste?
C'est-à-dire que le mot relativiste a tellement été dévoyé, on a l'impression que ça
vous
veut dire tout se vaut.
Au sens noble.
Que tout se vaut. Et ben, c'est-à-dire que pour moi, non, tout ne se vaut pas.
Alors, est-ce que vous pensez que... Parce qu'il y a une question qui est derrière tout ce que vous dites. Alors, c'est une question énorme. Est-ce qu'on va oser l'aborder? Ben oui. Est-ce que l'altérité existe au fond? Parce que finalement, il y a peut-être un rapport entre le fait de hiérarchiser et le fait d'avoir peur de l'altérité. Il y a une hypothèse possible, c'est que les hommes ont eu peur de la femme parce que la femme, c'est l'autre. Du coup, il y a deux façons de voir ça. Soit on dit, mais non, c'est pas l'altérité première. Voilà, on se souvient des féministes des années 70 qui défendaient encore cette idée qu'il y a du masculin et du féminin. Ou alors, on va plus loin et on dit qu'en fait, c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être pas ça l'altérité première. Et c'est peut-être pas entre le masculin et le féminin. C'est peut-être entre le jour et la nuit, entre le chaud et le froid. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'altérité pour vous est encore un concept opératoire ?
C'est un concept qui existe, ça c'est sûr, puisqu'on voit que beaucoup de situations qui montrent que malheureusement, en plus, c'est pas accepté, hein, que l'autre n'est pas accepté. Donc, je veux dire, c'est une réalité dans certaines situations. Ça existe. Mais on est toujours l'autre de quelqu'un. Et en fin de compte, ce qui est plutôt intéressant à voir dans cette notion d'altérité, c'est de se poser la question, est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Est-ce que c'est un signe de reconnaissance ou pas? Est-ce qu'en fin de compte, si je perçois pas l'autre comme autre, est-ce que en fin de compte, je perds pas une partie de l'intérêt que je vais avoir pour lui? Je vais être plus claire. C'est-à-dire que par exemple, quelque part, est-ce que c'est pas les différences qui sont attirantes? C'est-à-dire que est-ce que je veux un miroir? Est-ce que je veux quelqu'un comme moi? Non. Donc, si c'est bien quelqu'un comme moi, c'est forcément un autre.
Oui.
Avec énormément de ressemblances, énormément de similitudes, mais quelques différences. Et c'est en ça que ça enrichit aussi les rencontres, ça enrichit aussi les échanges. Parce que si c'est me regarder dans un miroir, je vois pas
sûr,
l'intérêt.
Je comprends très bien votre idée. Que l'altérité, c'est intéressant et ça permet le respect, bien sûr. Mais ma question, c'était plus de remonter plus en arrière. Est-ce que si nous sommes capables de penser une altérité, c'est-à-dire de penser qu'il y a une différence entre la nuit et le jour, entre le bien et le mal, entre le chaud et le froid, c'est parce qu'à l'origine, il y a l'altérité homme-femme. C'est la thèse, par exemple, de Françoise Héritier.
Ouais. Moi, je pense que... je ne sais pas si c'est seulement la thèse homme-femme. Je vais prendre une autre altérité.
Ouais.
C'est celle des Néandertaliens par rapport aux sapiens. Nous, en Occident, enfin nous, c'est à nous, on avait mis une barrière très forte, hein, en disant qu'ils sont inférieurs, etc. En 2010, on a dit... On s'est croisés, les Eurasiatiques, avec eux, puisque nous avons des gènes néandertaliens. Et donc, ça a changé. Ça a montré qu'il y avait eu un croisement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au Proche-Orient, ça s'est passé. Les Néandertaliens et les Sapiens se sont croisés, se sont mélangés, malgré qu'ils étaient différents.
Ouais.
Et ces différences n'étaient pas suffisantes pour ne pas, justement, se croiser. Donc, ce que je veux dire par là, que peut-être cette altérité est au départ, et favorise au contraire les mélanges, croisements.
Oui. Pour qu'il y ait mélange, il faut qu'il y ait altérité.
C'est un petit peu ce que je ressens.
Je
pense que sinon, je ne sais pas, c'est... Voilà, rien que l'attirance, rien que... Je crois que c'est un peu stérile. Moi, je pense que c'est au contraire, l'altérité. Moi, je pense que c'est intéressant de... Et l'altérité peut être surtout sur des comportements, parce qu'on parle là de hommes et femmes, mais vous savez très bien qu'il peut y avoir une attirance entre deux hommes ou deux femmes, etc. Donc, c'est qu'il y a... L'autre est là et est perçu sur un autre domaine que simplement du sexe. Et je crois que pour moi, c'est quand même quelque chose d'important de la reconnaissance de l'autre, des différences. Et je reviens sur quelque chose qui m'est cher, sans hiérarchisation, ce qui est très difficile à faire, j'en conçois.
Ouais.
Mais c'est là, c'est notre salut, c'est ça.
C'est ça, ce que vous avez dit est très beau. Il y a des différences, point. Ça ne veut pas dire que ça ne justifie pas cela. Juste, il y a des différences. Venons-en maintenant à votre position de chercheuse. Marie-Hélène Patoumatis, vous êtes directrice de recherche au CNRS. On a parlé du contenu, maintenant je voudrais qu'on parle de votre attitude. Quand on est chercheuse, directrice de recherche, j'imagine qu'à un moment, on a envie de trouver le truc énorme. Alors, est-ce que vous vous réveillez tous les matins avec ce truc? C'est peut-être aujourd'hui la grande découverte. Ou est-ce que c'est rare, finalement, vous avez un quotidien où, qui n'est pas comme ça, illuminé par cette recherche du trésor?
Je suis toujours enthousiaste à souhaiter que certaines des hypothèses que j'ai formulées ou que d'autres collègues auxquels j'adhère ont formulées, à trouver des éléments de réponse. Ça, c'est très, très important.
Ouais.
Par exemple, là, ça serait quand même intéressant de trouver quelque chose. Alors, je ne sais pas, pour l'instant, il faut chercher. Si on a ouvert le champ des possibles, qu'on ne dit pas ça, c'est une activité féminine ou masculine, d'avoir des preuves archéologiques qui montre vraiment qui fait quoi. Ça me paraît très très important. C'est une vraie recherche. Maintenant, je pense que si on a déconstruit les présupposés, on peut faire maintenant tout un travail méthodologique pour réfléchir sur ça, comment mettre en évidence ça. Et j'aimerais qu'on trouve quelque chose au niveau archéologique, en faisant des fouilles, qu'on trouve des éléments qui nous permettent là aussi de voir si oui ou non, en fin de compte, il y a cette domination masculine.
Donc vous avez encore l'espoir, en fait, de trouver quelque chose qui permette vraiment d'avancer.
Oui, mais c'est, je c'est pense ça que ça bon. Va arriver. Vous ouais, savez, ouais. Regardez les progrès énormes. Il y a plein de nouvelles techniques. C'est, en ce moment, c'est formidable. Il y a l'ADN ancien, bien sûr, mais il y a d'autres. Ouais. Et on progresse d'une façon extraordinaire. Moi, j'avais toujours défendu que les Néandertaliens avaient le teint clair. L'ADN a montré qu'ils avaient le teint clair et que les sapiens qui arrivent du Proche-Orient, ben, ils ont le teint foncé. Ouais. Hein, bon, ça, c'est l'ADN qui le prouve, même si ça ne plaît pas à certains, peut-être. Mais, voilà.
Mais qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du ça, gros best-seller Sapiens de Harari? Est-ce qu'il a une vision encore machiste ou sexiste, ou alors est-ce que lui, il n'est pas dans ce travers?
Ben, c'est-à-dire que c'est un peu difficile, parce que toute cette période un peu ancienne, etc., on sent quand même que ce n'est pas ses assises. Donc, il y a un peu d'erreur. Enfin, voilà,
vous êtes la scientifique.
Et puis, je ne sais pas, c'est sa philosophie, à un moment donné, quand j'ai vu arriver les deux autres livres derrière...
Oui, mais je parle de celui-là. Il dit que Sapiens, c'est la capacité à raconter des fictions. Ouais. Vous y croyez? Ça vous parle, ça?
Je pense que oui. C'est-à-dire qu'il y a une projection aussi dans l'avenir. Qui est importante chez les sapiens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose. Il faut toujours aller voir l'autre côté de la montagne. Moi, je vois avec les migrations, il n'y a pas de contrainte environnementale. Très souvent, on a dit l'homme, il est contraint par l'environnement. Pas du tout. Je veux dire, il fait des inventions qui ne sont pas liées du tout à ça. C'est parce que, et les migrations aussi, il y a des migrations, c'est pas parce qu'il y a une famine qui migre. Donc là, c'est des choses historiques, mais pendant ces périodes. Donc je pense qu'il y a toujours ce côté, aller voir l'autre côté de la montagne. Ouais. Et ça qui fait aussi peut-être
nous
le fait que nous sommes.
Nous projetons vers le futur, mais en même temps, nous sommes pleins de passé. Marie-Hélène Patoumatis.
Le passé est important. Hein.
Ouais, bah justement, merci beaucoup d'être venue parmi nous ce matin sous le soleil de Platon. Pour vous remercier, je vais essayer justement de dresser votre portrait, enfin le portrait de votre philosophie pour nos auditeurs. Et justement, j'ai envie de dire que vous êtes une femme qui venait du passé. On a l'impression que vous sentez venir de loin et que vous voulez que nous inviter à accueillir nous aussi la manière dont toute une longue évolution en fait nous traverse et dont la manière dont ce passé ne passe pas. J'aurais envie de dire aussi que c'est moins votre philosophie que j'ai envie de mettre à jour, parce que la philosophie est souvent proche de l'idéologie et plutôt que la dimension scientifique. Vous cherchez le réel, comme ça vous cherchez dans le sol à trouver des preuves pour déconstruire des mythes. Évidemment, une philosophie guerrière, c'est trop facile, mais c'est vrai que cette manière de dire voilà, c'est un cliché, ça vient justifier, c'est pas naturel, c'est pas scientifique, c'est une manière de nous ouvrir les yeux et de nous inviter à comprendre que l'invisibilité des femmes a une histoire, qu'elle a commencé, c'est donc aussi, il y a un peu d'espoir, peut-être, qu'elle pourrait finir. Marie-Hélène Patoumatis, merci encore.
Merci à vous.
Cette émission a été préparée par Vera Louderi et Fabrice Rivaud. Elle a été réalisée par Camille Matti. À la programmation musicale, Valentine Chaudebois. À la technique, Mathias Alléon. Quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous demain matin dans la caverne très moderne de France Inter, sous le soleil de Platon.